Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Domaine du Possible sur Radio Grand Ciel avec Alexia au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication non violente. Langage mis au point par Marshall Rosenberg, psychologue clinicien et élève de Carl Rogers. Inspiré du mouvement non violent de Gandhi, la communication non violente, aussi appelée CNV, tente de remplacer nos mécanismes liés au jugement et à notre éducation par le langage du cœur. À l'heure où nous prenons conscience de la limite de nos systèmes individualistes et rentables, nous devons inventer une relation à l'autre basée sur la compréhension, l'écoute et le partage. Je me suis donc entretenue avec Alain Bourru-Lacouture, animateur et formateur en communication dite consciente et responsable, sur les fondements de la CNV et sur ses apports. Comment es-tu venu à la CNV ?
Eh bien, je crois en partant de mes insatisfactions, de mes frustrations, à constater que jour après jour, j'étais assez insatisfait de ce que je vivais dans les relations. Et pourtant, j'étais bien intégré, j'étais père de famille, j'avais un boulot, j'avais tout un tas de choses dont beaucoup de gens rêveraient. Mais moi, les qualités de relations me laissaient pantois. Et un beau jour, j'ai été écouter un monsieur qui s'appelle Thomas d'Ensembourg. J'étais l'écouter à une conférence à Paris. Et j'ai vu quelqu'un qui parlait vrai. Et ça m'a touché, je me suis dit, voilà un homme qui parle de ses sentiments, qui parle de ce qu'il vit. Et ça m'a inspiré, alors j'étais le voir après la conférence et je lui ai demandé comment je pouvais aller un petit peu plus loin. Il m'a donné les références des sites de la communication non violente et puis aussi il m'a dit que lui-même formait des personnes. Donc je suis parti en Belgique, chez lui, à plusieurs reprises. Et là, j'ai appris et j'espère approfondi les bases de la communication non violente.
Est-ce que tu peux dire en quoi la communication non violente est une rupture par rapport à notre façon habituelle de fonctionner ?
Alors, plus qu'une rupture, moi je dirais que ce serait pour moi en tout cas comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. C'est-à-dire, jusqu'à présent, que ce soit dans le milieu familial ou à l'école, au lycée et dans le monde professionnel, j'ai appris à poser des jugements, à faire des diagnostics, à chercher, à savoir qui avait tort, qui avait raison. La CNV, eh bien, elle invite à porter notre attention sur vraiment toute autre chose que de savoir qui a tort, qui a raison, qui fait le bien, qui fait le mal, mais beaucoup plus sur ce qui est vivant en nous.
Donc en fait, quand tu dis ce qui est vivant en moi, tu parles de sentiments, de besoins.
Quand je parle de ce qui est vivant en moi, c'est déjà à partir des ressentis, des émotions que moi j'ai appris à mettre sous le couvercle, hein, ou à laisser au fond de la marmite avec un couvercle bien bien fermé dessus. Donc réapprivoiser ces émotions. Et puis surtout les relier à quelque chose de plus profond, c'est-à-dire... Si j'ai l'émotion de la tristesse ou de la colère, ben maintenant je sais que c'est parce qu'il y a des besoins fondamentaux, peut-être le besoin de sécurité quand j'ai peur, peut-être le besoin de liberté quand je me sens enfermé et quand on me demande, je sais pas, d'être dans un cadre, dans un moule, d'être quelqu'un comme il faudrait être. Voilà. Quand ces besoins-là sont pas nourris, effectivement, il peut y avoir de la peur, de la colère. Et plus j'apprends à identifier ce qui se passe en moi, plus je vais avoir des pistes pour aller nourrir ces besoins-là. Et en portant la responsabilité, hein, ce qui est important aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que plus je conscientise ce qui est vivant en moi, plus je peux en prendre l'entière responsabilité. Ma peur, elle m'appartient, hein. C'est pas l'autre qui en est le responsable. Voilà, lui, il a peut-être dit quelque chose qui me fait peur, ok, mais la peur, elle est chez moi, elle est en moi, et c'est moi qui peux avoir une action dessus. Donc j'emporte la responsabilité, et tout de suite après, je vais aller relier ça à ce qui est pas nourri, ou ce qui est que partiellement nourri. Et c'est ce qu'on appelle les besoins fondamentaux.
Dès lors qu'on les a entendus en soi, quelle est la dernière étape?
Ouais, à partir du moment où on les a entendus en soi, où on a pu les formuler, les exprimer, eh bien, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la demande. Et elle est très très bien codifiée dans ce processus de la CNV, puisqu'on demande à ce qu'elle soit réalisable, à ce qu'elle soit contextualisée dans le temps, à ce qu'elle évite toute forme d'exigence. Ça me permet de dire que c'est vraiment un réapprentissage de la communication. Parce que bien souvent on mélange encore demande et exigence, et même si c'est formulé avec beaucoup de douceur, avec un grand sourire, et avec, si on parle à un de ses enfants ou à son fils, sa fille, est-ce que tu veux bien monter te coucher, mon petit chéri? Il est déjà 9h30, il est l'heure d'aller se coucher. Et on peut le dire avec comme ça beaucoup de gentillesse, mais derrière il y a peut-être une forme d'exigence qui va pas donner à ce moment-là forcément l'élan à l'autre de contribuer à notre bien-être. Par contre, si j'ai identifié que c'était mon bien-être à moi qui se jouait derrière le fait que l'enfant aille se coucher tôt et que ça puisse aussi être son bien-être à lui ou le repos nécessaire pour un enfant, si on peut échanger à partir de choses plus authentiques, plus vraies, on va vraiment avoir plus de chances d'être dans des interactions respectueuses et nourrissantes.
Je voulais revenir aussi sur l'empathie, parce que c'est une composante importante de la communication bienveillante ou non violente.
Oui, moi je la relie à ce processus et à ce que j'ai dit, c'est-à-dire si je me rends disponible à l'autre, si je suis capable d'écouter ce qui est vivant chez lui, et que je suis plus dans mes projections, je suis plus dans mes interprétations, que ces interprétations-là, si je pouvais les garder pour moi, pour voir qu'est-ce qui se joue pour moi dans un deuxième temps de cette danse du dialogue, et si dans le premier temps je peux être vraiment attentif à ce que l'autre vit et à l'aider à aller peut-être dans son puits intérieur, hein. On parle même de la nappe phréatique pour les besoins universels. Voilà, c'est ce que moi je vais appeler l'empathie.
Lorsque tu es en écoute active ou empathique avec quelqu'un, tu te relies à son besoin, tu essayes de voir où se situe son besoin et tu essayes de contribuer à son bien-être en tenant compte de ton besoin aussi à toi à un moment donné. Donc il y a une sorte de compromis à trouver entre deux.
Alors, plus que compromis, moi je dirais que c'est une valse à deux temps. Il y a un premier temps où je vais être vraiment à l'écoute autant que possible, 100% si possible, de ce qui se passe pour celui qui est en face de moi. Et il y aura un autre temps dans lequel je serai à l'écoute autant que possible, à 100% de ce qui se passe pour moi. Et il y aura des temps d'échange sur ce qui se passe pour l'un et pour l'autre. Et je sais qu'il y a un espace de connexion où chacun est dans sa vérité. Et pour moi, c'est un espace du cœur, en fait. Quand j'arrive à être vraiment présent à l'autre, complètement présent à ce qu'il vit, déjà je vois que lui se sent écouté, se sent souvent apaisé ou se sent compris, reconnu. Et si dans un deuxième temps, moi j'ai pu faire la même chose pour moi, je sais qu'il y a une qualité de communication au milieu de tout ça, au cœur de tout ça, qui est d'une richesse pour moi absolument phénoménale.
C'est ce qu'on appelle auto-empathie lorsque on arrive à se connecter à nos propres besoins.
L'auto-empathie, pour moi, c'est un processus. C'est comme l'empathie, c'est aussi un processus, c'est quelque chose de dynamique, de vivant. Alors, quand je suis dans le processus de l'auto-empathie, oui, je vais essayer de m'accorder toute l'attention et la bienveillante attention à ce que je vis, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais en fait apprendre à être un meilleur compagnon pour moi-même. Et c'est beaucoup ce que je développe dans les ateliers que j'anime, c'est comment être de meilleurs compagnons pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et ce que j'observais, c'est que plus je me connais, plus je peux me connecter à moi-même, et plus ça me sera facile de me connecter à ce que l'autre vit, à qui il est lui-même.
Tu pourrais dire ce que ça t'a apporté, toi,
Oui,
depuis
oui.
des années de pratiquer comme ça?
Oui, ben moi je peux dire que ça a changé ma vie, parce que après m'être confronté, heurté, m'être soumis, m'être rebellé, m'être reculé, c'est-à-dire isolé, m'être écarté ou m'être brûlé dans les relations après avoir vécu tout un tas de choses comme ça très très insatisfaisantes, je peux enfin être dans une danse du dialogue avec l'autre, avec les autres et avec moi-même. Et cette danse du dialogue, elle est possible même dans des situations confrontantes, même dans des moments où on a envie d'envoyer l'autre à l'autre bout de la planète. Ben non, grâce à ce processus, moi je suis en capacité maintenant de rentrer en relation avec ce qui se passe pour chacun de nous, et ça change tout. Ça change absolument tout en termes de qualité de relation.
Tu disais quand même que ce que tu constatais dans tes ateliers, c'est que des freins immenses existent. C'est pas toujours facile d'arriver à pratiquer tout le temps en restant bienveillant, en restant conscient.
Ah oui, vraiment, hein. Ça c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue, donc ça se fait pas en 15 jours ni en 2 mois. Autant les principes sont simples, hein. Ils sont expliqués dans divers bouquins de Marshall Rosenberg, de Thomas d'Ansembourg. Ça c'est simple. Après, le mettre en pratique ou l'intégrer, ne plus être débordé par nos vieilles habitudes, ça prend du temps. C'est un vrai apprentissage. Alors, des fois, ça peut se faire comme ça en direct, puis d'autres fois, il y a besoin de revenir un petit peu sur une situation qu'on a vécue la veille, l'avant-veille, ou même peut-être il y a 5 ans, et de voir, de la revisiter à l'aune de nos sentiments peut-être actuels, et puis à l'aune des besoins qui n'ont pas été nourris à l'époque, et de voir maintenant qu'est-ce qui est présent, et maintenant qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui. Voilà, si ma conclusion ce serait ça, c'est. Je vous invite à aller voir de votre côté comment ça peut aussi changer des choses pour vous dans la relation aux autres et dans la relation à vous-même.
Mais Alain, je te remercie de t'être prêté au jeu de notre conversation.
Bien, merci aussi à toi, Alexia, hein, de m'avoir accueilli dans cette émission. Et c'était pour moi un beau moment, ça m'a permis de revisiter un petit peu des choses. Et puis voilà, je suis toujours heureux de partager ce qui a beaucoup de sens pour moi dans ma vie aujourd'hui.
Atelier sur la communication bienveillante lors d'Alternatiba le 19 septembre à Chartres. Vous trouverez toutes les informations concernant ce langage et sur les formations disponibles sur le site de Radio Grand Ciel, l'émission Le domaine du possible. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour découvrir des solutions et des idées innovantes, mais avant cela, j'aimerais partager avec vous une phrase de Marshall Rosenberg, créateur de la CNV. Quoi que vous fassiez, faites-le avec le désir de servir la vie. Servez les êtres humains avec compassion. Et si votre but est de contribuer à leur bien-être et que vous faites cela de plein gré, cela rencontrera alors votre besoin de contribuer. Et quand nous donnons de cette manière-là, il devient très difficile et très subtil en fait de dire qui donne et qui reçoit.